C'est l'heure de la chronique cinéma. Nous rejoignons Louise Véronique Sicotte. Bonjour, bienvenue à l'émission, Louise Véronique.
Bonjour, Denis Martin. Un plaisir de se retrouver.
Oui, on s'est vu en personne en studio cet été, mais là, on fait ça au téléphone. C'est pas grave que ça. Donc, on a plusieurs films dont on veut parler.
Oui.
Au bout du rien, pantoute, de Jérôme Sabourin.
Oui, oui. Est-ce qu'on a la bande-annonce? Ou...
Oui, oui, oui. Tu veux qu'on la joue? On va la jouer.
D'accord.
On y va.
L'éternité, vous savez ce que c'est? L'éternité, vous savez pas ce que c'est?
Hey! Il y a de la lumière, t'as-tu vu? Hey, t'as des petites pochettes. Oh, hey, là-haut! Je me sens revivre. Qu'il dirait, ça c'est la parole fatidique pour un mort. Dois-je jamais dire, je me sens revivre. Parce que si il dit ça, là, le mort, il est fini, il vit. Oh, putain, il faut qu'il recommence.
Imaginez la plus haute montagne. Imaginez le plus petit oiseau, gros comme une mouche quasiment. Une fois tous les minants, le petit oiseau ira becquer la plus haute montagne. Une fois tous les minants, là. Eh bien, quand la montagne aura été ramenée à ras du sol, mes pauvres enfants, si vous êtes en enfer, l'éternité n'aura pas encore commencé.
Oh boy, Louise Véronique, c'est quelque chose, ça. C'est un peu weird, là.
C'est un peu particulier, mais ça ouvre la porte à tout son imaginaire, l'imaginaire de Marcel Sabourin. Qui d'autre, cet homme de théâtre, de cinéma, cet homme aux multiples talents, mais on voit que c'est un homme qui a une imagination fertile et incroyable, et c'est un intarissable conteur. Donc, on entre dans son imaginaire, dans sa vie, en fait, et c'est réalisé par Jérôme Sabourin, son fils, et qui réalise d'ailleurs son premier long-métrage. Alors, il a choisi son sujet, son père. En fait, ce n'est pas une biographie là, chronologique, là, c'est vraiment un portrait de qui il est, cet homme. Marcel Sabourin, je pense que bien des gens le connaissent, n'est-ce pas, hein? C'est un acteur, bien sûr, avec plus de 50 films à son crédit, un scénariste aussi, un professeur à l'École nationale de théâtre, un improvisateur dans la Ligue d'improvisation, c'est un homme de théâtre, un parolier, un conteur, enfin, c'est tout ça, et bien plus encore. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce film? Eh bien, on le découvre peu à peu, dans différents lieux, et c'est quand même tourné sur plusieurs années, quand même, ce film. C'est un homme qui est tout à fait, original. Il n'y en a pas d'autre comme lui. On entre dans son imagination. D'ailleurs, on le voit aussi un peu au quotidien. Et ce qu'il fait, il a un rituel très particulier, c'est qu'il a un vieux magnétophone à cassette. Et à chaque jour, il va enregistrer sur ce magnétophone ses pensées, ses émotions, ses rêves. Alors, il fait ça depuis de nombreuses années. Il se confie à son magnétophone. C'est assez particulier quand même, c'est son rituel. On le voit aussi qu'il s'interroge sur l'immensité de l'univers, comme on l'a pu le voir dans la bande-annonce un peu, et aussi de son émerveillement sur la nature, sur ce qui est même le plus petit dans la nature. On le voit qu'il contemple, qu'il observe les fourmis avec passion. On va le retrouver aussi dans différents lieux, par exemple, dans un cimetière. On va le voir déambuler dans un cimetière avec toute sa poésie, une fleur à la boutonnière, et aussi à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, où il a imaginé toutes sortes de projets dans cet espace. Et puis aussi à la Cité universitaire de Paris, parce qu'il a étudié à Paris, et on le voit aussi même avec des étudiants, donc il fait un retour sur sa vie, qui leur donne des conseils. Alors, dans différents lieux de sa vie, c'est un film aussi qui nous montre l'aspect très créatif de sa vie comme parolier de chansons. Donc, entrevue avec Robert Charlebois, parce que c'est Marcel Sabourin qui a écrit les premières chansons en joie de Robert Charlebois. C'était un fils unique aussi. Hein.
Donc,
lui, c'était difficile d'être, de se dire acteur dans les années 50 et 60. Ça a été difficile pour lui, donc il y a aussi les doutes qu'il avait dans sa vie. On voit aussi, bien sûr, un extrait du film qu'il a co-scénarisé, J.A. Martin photographe, un classique du cinéma québécois. Alors, et puis aussi, bien sûr, le fameux professeur Mandibule, pour les plus âgés, là, de la boîte à surprises, là. C'était un personnage hors du commun. C'est un film qui est très inspirant. Moi, je trouve qu'il m'a fait beaucoup de bien parce que il inspire à garder son cœur d'enfant, à garder son émerveillement. Comme lui, là, il a presque 89 ans, là, Marcel Sabourin. Et il a encore toute cette vivacité d'esprit, cette lucidité, mais cette capacité de se raconter des histoires, de transformer le réel. C'est aussi un père de 4 garçons, hein. Quand même.
Quand même.
Alors, il devait conjuguer avec la vie d'artiste et sa vie familiale. Et il a, bien sûr, à ses côtés, Françoise, sa compagne, son épouse, qu'on voit quelque peu discrètement dans le film, qui est aussi une artiste en art visuel, qui est très discrète, mais qui a servi, je pense, de contrebalance à son mari très flamboyant. Il dit d'ailleurs que c'est son encre dans sa vie.
D'accord. Alors, ce film, on peut le voir maintenant? Il va être à l'affiche bientôt, oui?
Maintenant, l'affiche à la Cinémathèque québécoise, au Cinéma Beaubien, à Québec, au Cinéma Le Clap, et aussi à Sainte-Adèle.
Quand même.
Oui. Alors, c'est un film, moi, qui m'a fait beaucoup de bien, parce que quel modèle d'homme accompli autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. On le voit aussi avec ses amis de longue date, Denis Arcand, entre autres. Alors, c'est toute une réflexion sur ce qu'il est devenu, mais aussi, on entre dans son imaginaire.
D'accord. Ils ont tiré sur le pianiste. C'est un autre titre que vous venez nous proposer aujourd'hui.
Oui, complètement différent, celui-là, oui. Mais c'est un docu-fiction, un film d'animation pour adultes. Il n'y en a quand même pas beaucoup, des films d'animation pour adultes. C'est co-réalisé par deux réalisateurs espagnols, Fernando Trueba et Javier Mariscal. C'est la version donc française du film Des shots de piano player. Alors, c'est en portugais, en espagnol, en anglais, mais avec des sous-titres en français qu'on peut voir à la Cinémathèque québécoise. Alors, de quoi s'agit-il? Les deux réalisateurs se sont penchés sur un artiste brésilien, Francisco Tenorio. C'est un virtuose du piano, de la bossa nova et du jazz dans les années 60. Et il est disparu mystérieusement, il avait 34 ans, en 1976 à Buenos Aires, au moment où il donnait des concerts, parce qu'il accompagnait aussi beaucoup d'autres artistes. Il avait fait un seul disque à l'âge de 24 ans, puis par la suite, ben, il accompagnait d'autres artistes, donc brésiliens. Alors, il disparaît, il quitte l'hôtel et il ne revient pas, et on ne l'a jamais retrouvé, on n'a jamais retrouvé son corps. Alors, qu'est-il arrivé à cet artiste formidable, parce qu'il était très, très apprécié par ses pairs musiciens? En fait, la partie documentaire, c'est que le réalisateur Fernando Trueba s'est intéressé dans les années 70 à cet artiste brésilien. Il a fait une enquête personnelle après sa disparition. Donc, il a fait plus de 150 entrevues filmées avec des musiciens qui l'ont côtoyé, avec ses amis, sa famille, des policiers. Alors, il a conservé toutes ces entrevues filmées. Et la partie fiction, eh bien, c'est que ce n'est pas lui à l'écran qui fait l'enquête. C'est un personnage fictif d'un journaliste new-yorkais qui s'intéresse à cette disparition et qui veut en faire un livre sur cet artiste, donc Francisco Tenorio.
D'accord.
Alors, on va suivre ce journaliste à travers son enquête. Bien sûr, pourquoi c'est un film d'animation? Parce que ça aurait été beaucoup trop difficile de recréer toute l'atmosphère des clubs de bossa nova des époques 1960 et 70. Alors, les dessins de Javier Mariscal sont fabuleux, sont colorés. C'est deux réalisateurs qui se connaissent de longue date et qui ont déjà fait un autre film auparavant. On entre dans l'univers de la bossa nova. Pour les gens qui ne connaissent pas, ils découvrent ce style musical. Pour les passionnés, ben, c'est encore plus intéressant. Aussi, les clubs de jazz de cette époque-là, c'était des atmosphères très chaudes, très endiablées. D'ailleurs, les dessins sont très colorés, vraiment des couleurs très criardes. Mais, en même temps, il y a toutes ces entrevues qu'il fait. C'est quand même très, très verbeux comme film, parce que c'est souvent des séries d'entrevues où on va connaître davantage les circonstances de la disparition du pianiste, mais également tout le climat social de l'époque, le climat politique de terreur, hein, les gens qui avaient peur, les arrestations vraiment sommaires, les interrogatoires, la torture. Donc, on va vraiment connaître aussi ce climat-là qui contraste beaucoup avec les boîtes de nuit qui étaient vraiment très, très, très festives.
On va aller à l'autre film. On va entendre d'abord la bande-annonce, oui.
D'accord.
Non, je sais pas qu'est-ce qui peut être plus clair, là. Depuis le début de la saison, je demande à avoir de la compétition féminine. Je veux mettre ma ceinture en jeu. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans?
Elle nous provient tout droit de Pécancourt.
Tu me charges puis je te gèle, genre. Tu sais, pour avoir le petit moment de silence de 2 secondes pour qu'après ça, le monde commence à m'envoyer chier parce que j'ai frappé une femme.
It's really hard to become a professional wrestler. But for girls, it's so much worse, I have no words.
Il manque la femme qui va se lever debout puis qui va aller leur dire que les matchs de femmes sont pas assez longs. Il y en a pas assez sur la carte.
Financièrement, je suis à la gorge, là. Fait que non, je veux faire de la merch, je ne veux pas que je sois capable.
Je passe un autre enfant, d'autres allocations.
Mon enfant coûte bien plus cher que les allocations, voyons.
Où est ton fils?
Bang, 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 fait que je tombe, je vais juste dans le coin,
c'est ça.
Puis là,
je monte de face.
Tu montes de face,
puis
là,
boum, puis là, tac, bang.
Bang, bang, bang. Alors ça, ce film s'appelle « Celle qui lutte ».
Celle qui lutte. Et quelle performance de ces femmes. C'est vraiment, moi, c'est un univers que je ne connaissais absolument pas. La condition féminine dans le milieu de la lutte professionnelle au Québec. Qui sont ces femmes qui luttent? C'est un documentaire de Sarah Baril Godet. Qui a découvert ça aussi par hasard, qui a été voir un match comme ça et qui est devenu tout à fait accro à ce type de spectacle et qui a voulu vraiment faire découvrir qui étaient ces femmes derrière ces guerrières dans le ring. Alors, on va suivre 3 femmes. Azaël, qui est une vraie lionne, les cheveux roux, va faire une pause de combat parce qu'elle voudrait tomber enceinte et c'est pas très compatible, hein, être enceinte et se battre. Et puis, il y a aussi Lou, qui, elle, est nouvellement maman et qui revient dans le ring, vraiment là, plus déterminée que jamais. Et il y a Lufisto, qui est une lutteuse de carrière. Elle a 23 ans de combat derrière elle. Et là, elle est vraiment à son apogée, mais aussi à la fin de sa carrière. Donc, on va les voir, les 3, se battre comme des vraies guerrières, des femmes qui se détestent dans le ring, mais qui, en dehors du ring, s'aiment, se supportent, s'adorent, parce que c'est avant tout un spectacle. Alors, comme on l'a vu, on l'a pu l'entendre peut-être dans la bande-annonce, tous les combats sont chorégraphiés à l'avance. Elle se pratique, elle se prépare. Donc, tout, il n'y a rien vraiment d'improvisé. Mais c'est quand même, on découvre que ce sont des femmes qui doivent être très, très, très en forme parce qu'il y a des risques physiques. L'atmosphère des combats, c'est une atmosphère survoltée. Ces femmes-là aussi luttent avec d'autres hommes, c'est-à-dire contre d'autres hommes. Alors, ouais. elles se cassent des chaises sur la tête, se projettent sur des portes, se battent avec des bâtons. Donc, c'est très, très, ça peut paraître très, très violent, mais c'est quand même très orchestré. D'ailleurs, il y a un organisateur qui, juste avant un combat, va dire à tout le monde... Bon, on s'amuse, là, puis on se blesse pas, bien sûr.
Ah oui, justement. Ben, c'est un film, donc, qu'on peut voir aussi sur le grand écran?
Oui, mais à partir du 29 mars, oui. Au cinéma Beaubien. Moi, c'est un film que j'ai adoré, parce que ça déconstruit aussi les stéréotypes, les idées préconçues par rapport à ces femmes, qu'on voit aussi dans leur quotidien. On les voit dans leur intimité, des femmes de banlieue, des femmes pour qui la lutte, c'est un amour passionné, c'est une façon aussi de s'affirmer et de s'exprimer, d'exprimer toute leur colère et toutes leurs émotions.
Allons-y rapidement pour parler, puisqu'on arrive à la fin de notre temps, rapidement pour parler du 42e Festival international du film sur l'art.
Alors, le FIFA est en marche déjà depuis jeudi dernier jusqu'au 24 mars en salle, mais ce sera aussi possible de voir des films en ligne du 22 mars jusqu'au 31 mars. Alors, c'est aussi, donc, comme vous le disiez, la 42e édition, avec une quantité incroyable de films sur toutes sortes de formes d'art, hein, architecture, photographie, peinture et danse et tout. Alors, cette année, le FIFA fait une très belle place aux femmes parce que 50%, même plus de 50% des films sont co-signés ou signés par des femmes. Alors, c'est une occasion de voir ces films réalisés avec un œil féminin. Peut-être qu'une suggestion, jeudi prochain au Théâtre Outremont, ce sera une carte blanche à la danse, donc une série de courts-métrages sur la danse, mais il y a également des conférences, des activités de réseautage, c'est vraiment très, 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 très varié, mais c'est une façon de découvrir toutes sortes d'artistes au grand écran et aussi en ligne.
Et Louise Vernick-Sicotte, merci beaucoup d'avoir été là.
Oh, c'est toujours un plaisir.
Merci.
Bon cinéma. Au revoir.
Merci, au revoir.